Les jeudis en question cette semaine sur CFM, c'est le deuxième épisode avec Tristan Rechid, formateur en démocratie locale et participative. Et tout ça autour de l'échéance des prochaines municipales en mars 2020. Tristan Rechid qui, dans cette deuxième partie, revient sur son expérience de la commune de Saillant. Tristan Rechid qui était l'invité des jeudis en question à Marcillac-Vallon il y a quelques jours.
On va dire que le lendemain des élections, on a fait une journée porte ouverte de la mairie. On a fait ça un dimanche, c'est le jour du marché. On a invité les gens à rentrer dans la mairie. Depuis, les gens n'arrêtent pas de rentrer dans la mairie d'ailleurs. Ça, c'est aussi un indicateur. On a quelqu'un, nous, qui habite en face de la mairie, qui nous a dit, mais par rapport à l'ancienne mandature, c'est incroyable, quoi. Dans l'ancienne mandature, personne rentrait dans la mairie, si ce n'est pour les démarches obligatoires, machin. Là, il me dit, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui rentrent à la mairie, quoi. Donc cette journée porte ouverte, en fait, on a eu 250 personnes qui sont venues dans la mairie et qui sont venues s'inscrire sur les 8 commissions thématiques. Vous vous rendez compte, 250 adultes qui, dans une matinée, viennent laisser leurs coordonnées pour nous dire « tenez-nous au courant quand il y aura une réunion ». Quoi. Plus d'un quart de village. Sur 1000 électeurs à peu près, on a un peu moins de 1000 électeurs sur les 1250. Donc voilà, donc nous on a été emmenés par cette espèce de fulgurance, et c'est pour ça qu'on a fait autant de réunions, c'est parce qu'on avait l'impression qu'il y avait tellement d'engouement, et petit à petit ça s'est essoufflé, et on en est arrivé au bout d'un moment, ça s'est essoufflé pour plein de raisons, hein, parce que les animateurs étaient que des animateurs bénévoles, on avait 20 animateurs bénévoles, mais on n'avait pas d'animateurs professionnels, il y avait que moi, je suis un ancien directeur de centre social, donc c'était ma profession, mais sinon tous les autres ont appris sur le tas, donc les réunions étaient plus ou moins bien animées. Les outils étaient toujours à peu près les mêmes, toujours avec des post-it. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, les post-it, c'était plus possible. C'est une rigueur aussi dans la prise de parole. Donc, il y a des moments, il y a des gens, ça les gonfle aussi. Quoi. Du coup, il y a toujours quelqu'un qui leur dise, bah non, c'est pas ton tour de parler. Tout ça a créé ça. Il y a aussi le fait que, je vous ai dit, on a fait émerger plein de projets, mais on est une commune avec pas de budget, en fait. Hein. On est tout petit, on n'a pas d'entreprise. Donc, au bout d'un moment, t'as bien beau faire émerger des projets, mais c'est financé par qui, quand, comment, où. Enfin, faut être raisonnable à un moment donné dans les projets. Alors après, il y a plein de projets qui nécessitent pas d'argent. Hein. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Hein. Et voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, et puis ça crée beaucoup de conflits aussi dans le village finalement. Vous savez, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller râler au bar des sports, sur la terrasse du bar des sports, que d'aller s'impliquer dans des réunions. Hein. Donc le sport national, à Saillant aussi, hein, un peu moins qu'ailleurs, et apparemment. Mais le sport national à Saillant, c'est aussi d'aller râler contre les décisions qui sont prises et d'aller chercher un coupable. Et de préférence le maire. Vous voyez ? Donc ça, c'est valable aussi à Saillant, ce genre de choses. Hein. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, le nombre de réunions s'est arrêté et on a procédé un peu différemment. Et donc là, dernièrement, on vient de finir le PLU, donc le projet le plus politique qu'on peut imaginer à l'échelon d'un territoire comme le nôtre, le plan local d'urbanisme. Et pour ce faire, on s'est dit, donc le PLU a été demandé par les habitants, c'était dans la commission urbaniste que les habitants ont dit assez rapidement, la première chose qu'il fallait régler c'était les crottes de chiens, c'était très étonnant ça. Le premier sujet, le sujet numéro 1 à régler, était la propreté dans le village, et en particulier les merdes de chiens. Projet numéro 2 qu'il fallait se saisir absolument, c'était le plan local d'urbanisme, et arrêter que ce plan local d'urbanisme soit réglé par les 4 propriétaires terriens et le maire. Et c'était dans cet ordre-là. Vous imaginez la tête des élus quand ils ressortent de la commission urbaniste où le problème prioritaire à gérer, c'est le problème des crottes de chiens. Tu dis, putain, on a fait tout ça pour ça, en fait, du coup, pour gérer les merdes de chiens collectivement. Ouais. Eh ben, il faut pas négliger la dimension politique des crottes de chiens et de la propreté du village. Effectivement, il a fallu passer par là pour ensuite basculer sur le PLU. Vous voyez, on est passé du projet le moins politique a priori au projet le plus politique sur le village. Et pour ce faire, du coup, on s'est dit, attends, est-ce que, du coup, les élus sont tous des cadors et des experts en urbanisme? Vous êtes au courant que c'est pas le cas? L'État le sait, donc l'État met à disposition des élus un cabinet d'urbanisme qui les accompagne, qui les forme et qui les accompagne à l'écriture, du coup, du PLU. Et ben, nous, on s'est dit que les habitants étaient pas forcément plus idiots que les élus. Et pourquoi pas faire du tirage au sort? Sur un sujet qui nécessite du coup d'avoir, vous voyez, une vision un peu globale, on s'est dit c'est peut-être le moment de faire du tirage au sort. Et en fait, on a toute une procédure de tirage au sort qui nous a amené à avoir 12 habitants qui ont accepté. Et ces 12 habitants, accompagnés de 4 élus, 16 personnes, ont été accompagnés pendant 2 ans et demi par un cabinet d'urbanisme. Et pendant 2 ans et demi, ils ont été formés, accompagnés. Donc il y a eu 25 réunions de consultation avec les habitants. On n'a pas oublié les autres habitants. Mais le groupe qui a décidé du PLU C'est ces 12 personnes tirées au sort et ces 4 élus. Voilà, ça c'est une autre manière du coup, plutôt que faire des commissions, faire émerger des projets, faire travailler des projets, etc. On s'est dit sur des projets compliqués, des projets qui demandent de l'expertise, eh ben on va procéder comme ça. Je suis en train de vous dire en fait que la démocratie directe sur tous les sujets, c'est pour moi c'est du fascisme. De faire croire aux habitants que n'importe qui peut décider n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, sans faire un effort d'information et de formation, c'est pas de la démocratie, c'est du fascisme ça. Vous voyez qu'on parle de populisme, etc. Ça, c'est du populisme dangereux. Sur des sujets techniques, il va falloir que les habitants qui souhaitent prendre une décision sur ces sujets techniques, il va falloir que ces habitants prennent le temps de s'informer, de se former sur ces sujets-là. Alors là, il faut imaginer, des manières de compenser le temps, parce qu'il va peut-être falloir qu'ils baissent leur temps de travail. Tout ça, ça n'a pas encore été prévu par la loi, vous voyez. Mais il y a des manières de compenser ce temps-là aussi, quoi. Et puis, pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui soient formés, informés et qui prennent des décisions, eh ben, le tirage au sort me paraît être un outil intéressant à utiliser qui permet du coup de diversifier les gens qui vont accéder à ce genre de choses. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée un renouvellement des élus aussi. Quand on a été formé sur un sujet d'importance et quand on est allé jusqu'à la prise de décision, il me semble que ça peut donner des envies de se présenter sur une liste municipale aux élections d'après. Voilà, donc l'idée, ça c'est un rêve d'éducation populaire, hein. C'est de former des habitants petit à petit sur tous les sujets complexes qui traversent leur mairie. Pourquoi pas imaginer que tous les budgets d'une année sur l'autre soient décidés par un groupe d'habitants tirés au sort, formés à ce qu'est un budget municipal, et que ça soit ce groupe avec des élus qui écrivent le budget prévisionnel, le budget d'investissement à venir dans le village. Pourquoi pas imaginer ça? Tous nos élus ne sont pas des cadors, encore une fois, en gestion budgétaire, etc. Faut pas croire ça. Donc les habitants sont pas plus débiles, sont pas plus bêtes que des élus. Donc on peut tout à fait imaginer que sur tous les sujets important et complexe, on puisse faire monter en compétence des habitants tous les ans.
Je comprends, c'est-à-dire que les 12 personnes, ce sont celles qui ont élaboré le PLU ou qui ont fait des propositions en vue d'élaborer le PLU?
Non, c'est ce groupe de 12 et 4 personnes, ce groupe de 16 personnes qui a décidé du PLU, qui a construit au fur et à mesure et qui a décidé du PLU.
Juste un petit détail technique, les 12 personnes tirées au sort, vous n'en avez tiré que 12 et elles sont toutes les 12 venues.
On a tiré 125. Évidemment qu'il n'y a aucune obligation à. Et évidemment, c'est de l'engagement volontaire. Mais sauf qu'on s'est aperçu que dans les 12, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui n'avaient jamais fait une réunion participative auparavant. Je parle des 300 réunions. Il y en a, donc comme quoi le tirage au sort appelle aussi des gens qui ne se sentaient pas avant d'avoir été appelé, qui ne se sentait pas d'aller participer. Et je vous dis, il y avait 4 réunions par semaine pendant 2 ans et demi, 3 ans. Donc il y avait largement de quoi venir participer à une réunion.
Niveau salaire et indemnité.
Alors ça, c'était la première question qui a été posée au secrétaire de mairie. Et la question qui lui a été posée, c'était de se dire, on veut pas de premier adjoint, deuxième adjoint, etc. Puis d'avoir du coup l'ensemble de l'enveloppe qui soit du coup distribuée entre 2 ou 3 personnes. On voudrait que tout le monde puisse en bénéficier de cette enveloppe. Et le secrétaire a trouvé la solution, il suffit de donner une compétence, une délégation à chacun des élus, et également aux élus de l'opposition. Il suffit d'avoir une délégation, en fait, pour pouvoir toucher des indemnités. Donc c'est comme si on avait la mairie de Saillant, du coup un maire et des adjoints. Alors c'est pas exactement ça, alors, et du coup je suis pas un spécialiste en droit juridique, c'est parce qu'on a quand même 3 ou 4 adjoints, du coup. Mais en tout cas la répartition de l'enveloppe, qui n'a pas du tout compte de ça. Donc on n'a pas 2 catégories d'élus chez nous. On n'a pas d'un côté les adjoints et de l'autre côté des conseillers. Ça, voilà. Même si sur le papier, il me semble qu'on a quand même été obligé à un moment donné de faire ça. Mais en tout cas, on a réussi à donner des indemnités à tout le monde, à tous les élus, dont les élus de l'opposition qui ont accepté de jouer. Sur les 3, il y en a eu 1. Le maire touche des indemnités plus importantes que les autres parce qu'on a considéré aussi, et c'est le jeu que voulait jouer Vincent aussi, qui avait quand même une présence plus importante qui était demandée au maire. Mais après, à vous de jouer avec ça. Hein. Il y a un certain nombre de délégations. Vous pouvez multiplier les délégations. On a laissé pas mal de délégations au maire. Beaucoup de la représentation. Aucune délégation de pouvoir, en fait, pure. En fait. C'est-à-dire que Vincent ne décide de rien seul. Je dirais presque même que c'est peut-être l'un des élus qui a le moins la capacité de décider sur des sujets, en fait. Comme il est vraiment sur cette écoute globale, sur cette médiation entre les gens, il n'est pas tellement là pour décider. Il est plutôt là pour essayer d'équilibrer les prises de parole, équilibrer les idées, etc. Donc on est plutôt autour de 1 000 euros pour Vincent, On est après entre c'est pas énorme, hein, on est entre, je crois, 150-180 euros pour ceux qui touchent le moins, et ça monte à 400 et quelques euros, 300 et quelques euros pour les autres. Il y a trois catégories en gros, quoi. Mais qui sont pas liées tellement aux responsabilités, qui sont plutôt liées au temps passé. Et voilà. Et je sais que, par exemple, qu'on a des élus qui sont à la retraite et qui n'avaient pas besoin de cette indemnité, qui ont tout mis dans le pot commun. Voilà. Donc, il y a eu vraiment une répartition qui s'est faite de cet ordre-là.
Pierre.
Oui, vous voulez savoir quel pouvait être vos rapports à partir du moment où vous avez ce fonctionnement-là avec la Comcom et tous les obligations qu'a une commune par rapport à des... Excusez-moi, j'ai des acronymes comme le SCOT, etc.
Alors, après 4 ans et 5 ans à voyager un peu partout, j'ai compris qu'en fait, sans doute que c'est un peu tard maintenant pour le faire, 6 mois, ça devient un peu compliqué. Je pense que le projet, le programme devrait se construire à l'échelle de l'Interco. Je pense que c'est maintenant, c'est plutôt ça que je propose du coup de faire aux listes. C'est plutôt d'aller voir des listes alliées un peu partout dans les communes aux alentours et de construire sur la base des sujets majeurs, à savoir le transport, la flotte, voilà, tous les sujets du coup qui vont être plutôt des sujets intercommunaux plutôt que des sujets communaux qui malheureusement ça n'a plus tellement de sens. Donc voilà, moi je pense que le programme se construit à l'échelle de l'Interco et qu'ensuite... Et ensuite, il faut avoir des listes qui l'emportent pour avoir des élus et pour avoir la majorité à l'interco pour pouvoir mettre en place une politique qui ressemble à ça. Juste une petite histoire pour raconter notre rapport avec l'interco. Les élections municipales amènent la liste de Vincent à l'emporter. Vincent est conseiller communautaire en même temps qu'il est maire de Saillant. Hein. Vous savez que on a élu à la fois les conseillers municipaux et communautaires. Première séance du conseil communautaire. Puis vous savez aussi que les postes de président, de vice-président, comme le poste de maire, se décident à l'élection du premier conseil. Donc première séance du conseil communautaire. Donc on va élire le président et les vice-présidents. Donc la séance du conseil communautaire, c'est 3 semaines après les élections municipales, ça en gros. La séance du conseil municipal, du conseil communautaire s'ouvre. Et donc on va élire notre président. La communauté de communes, quand même pas rien. Quand même un peu là où tout se décide, hein, quand même, hein, sur notre territoire. Et en fait, il y a un poste de président et un candidat. Ça doit être une vingtaine de communes. Il y a... C'est quoi le délire du coup? Il n'y a pas plusieurs projets? C'est-à-dire, la démocratie, c'est pas le niveau zéro là où on vote pour le projet qui nous intéresse le plus? Non, il y a un président pour un poste. 6 postes de vice-président qui s'ouvrent, 6 candidats. Chacun dans son, vous voyez, dans sa compétence. Vous dites, mais les gars, c'est un coup de bol ou vous êtes passé des coups de fil avant, quoi? Comment ça? Vous êtes déjà répartis les postes avant, du coup? Comment ça se passe, du coup? Il y a la démocratie, c'est fini là, du coup? On se distribue les postes, en fait. C'est ça l'enjeu, quoi. Et donc voilà. Donc les gens se distribuent les postes, en fait. 7e poste, parce qu'il y a 7 postes de vice-président. Le 7e poste, il y a 2 candidats sur le poste. Il y a Vincent et...
Ah non, on va arrêter autre chose.
Il y a François. Bah François, il était vice-président de la communauté de communes. Il va quand même pas, c'est pas parce qu'il a perdu les élections municipales qu'il va perdre son poste de vice-président de la communauté de communes. Donc François se présente face à Vincent sur le même poste de vice-président. Oui, la gabegie, quoi. Et là, vous dites, bon les gars, vous avez le droit de voter pour François, mais quand même. Le seul moment où on a un peu l'impression d'être en démocratie, c'est le coup du un homme, une femme, une voix, vous voyez le truc là, le suffrage universel qu'on appelle, vous voyez? Vous allez quand même pas vous asseoir sur le suffrage universel quand même. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, Vincent l'a emporté, vous allez pas voter pour le mec qui vient de se faire botter le cul. C'est quand même pas le mec qui vient de se faire botter le cul qui va être représentant du village à la com-com, là où tout se décide. Mais si! Ils font ça! Ils font ça à 50 voix contre 12!
Je ne comprends pas déjà dans ce que tu racontes là. Comment c'est possible? Vous êtes élu sur liste complète. Comment tu peux mettre des gens d'une liste d'opposition à la mairie? Déjà eu. Et comment ce mec qui n'a pas été élu, ce François, peut se retrouver à la communauté?
Je vais t'expliquer. Alors, avant de me dire que ça ne ressemble à rien, pose-moi la question.
Je ne comprends pas ce que tu as
moi. Donc, je vais t'expliquer. Alors, quand tu gagnes les élections à 56,7%, sur les 15, on a 12. Qui sont élus de la majorité, et t'en as 3 pour l'opposition. D'accord? Donc François, en tant que tête de liste de l'opposition, se retrouve automatiquement dans les 15 du conseil. Deuxième chose, en tant que tête de l'opposition, il était aussi proposé en tant que conseiller communautaire. chez nous, nous avions 3 postes pour le conseil communautaire. Et la loi dit, dans ce cas de figure-là, tu en as 2 pour la majorité et 1 pour l'opposition. Donc, il se retrouvait automatiquement conseiller communautaire. Mais de là, imaginez que ce mec puisse avoir le culot de se présenter face au maire qui l'a emporté, déjà. Mais que la loi le permette. Donc, 50 voix contre 12. Voilà, c'est une abomination absolue. Bon, je vous raconte pas toute l'histoire, machin. Il se trouve qu'il y a 2 ans, Vincent, suite à une démission, a récupéré un poste de vice-président à la communauté de communes. Et entre-temps, François a tout perdu, en fait. Je vous raconte ça rapidement. Oui. La descente aux enfers. François n'a plus aucun mandat électif, du coup, il a tout perdu. Et en fait, il y a eu un vice de procédure dans une petite commune, Véronne, 24 habitants, 25 habitants, au-dessus de Saillant. Quelqu'un a été élu, il n'était pas éligible. Ça a cassé les élections à Véronne, et du coup, ça a cassé les élections aussi à la communauté de communes. Entre-temps, la loi a changé. C'est-à-dire que depuis 2014 ou 2015, je ne sais plus quand est-ce que c'était, 2014, fin 2014, avant 2014, on pouvait négocier le nombre de conseillers communautaires à la communauté de communes. Depuis 2014, il y a une loi qui est tombée. Maintenant, c'est strictement proportionnel au nombre d'habitants. C'est une loi qui donne l'avantage, évidemment, aux grosses villes. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une communauté de communes avec une ville importante, vous disparaissez. Si vous êtes dans une petite commune, dans une commune moyenne, vous disparaissez. Nous, avec cette histoire, on a perdu un poste. Donc la loi dit que quand tu as 3 candidats, tu en as 2 de la majorité, 1 de l'opposition. La loi ne dit rien quand on a 2. Donc au conseil municipal, il a fallu choisir pour savoir à qui on enlevait le poste de conseiller communautaire.
Ah, c'était dur.
Je vous raconte même pas le plaidoyer de François, hein, qui nous fait le plan du « je ne comprendrai pas comment une liste comme la vôtre, qui défend des valeurs de démocratie, que la voix de l'opposition soit présente à la communauté de communes, et dans un souci de parité de genre, je propose que ça soit Agnès et moi, Agnès qui était une des élues de notre liste, machin, et que Vincent s'occupe des affaires communales. Voilà. » Il a osé faire ça. Hein. Bon, ça n'a pas marché. Hein.
Quand même un petit bémol, parce qu'il y a la possibilité, à partir du moment où toutes les communes s'entendent sur un nombre de représentants, de ne pas s'en tenir à ce que la loi a prévu. C'est ce qui vient de se passer à Rodez, c'est-à-dire que on a normalement la loi prévoit 40 élus sur la communauté d'agglomération, et il a été décidé 50.
Une loi crée, par exemple, Hervé Mariton crée à la majorité à lui tout seul. C'est-à-dire Hervé Mariton peut décider de tout ce qui se passe sur son interco, seul. On est dans cette démocratie-là, en fait. C'est-à-dire un village, du coup, une ville importante, peut avoir la majorité sur le devenir de tout un territoire comme celui-là. Voilà, moi, ça me pose mieux, tant mieux. Mais je vous dis encore une fois, dans un système comme celui-là, le vote majoritaire, pour moi, est une gabegie. Ce n'est pas de la démocratie. C'est pour ça que je vous invite encore à considérer que sur une question, il faut mettre autour de la table les différents protagonismes. Des protagonistes, en mettant autour de la table des gens qui ne pensent pas la même chose sur le sujet. Donc, en mettant autour de la table les représentants de chacune des communes concernées et de trouver une solution sur cette base-là. Et non pas de s'en remettre systématiquement à la majorité et au vote majoritaire. Parce que ça, ça écrase.
Je suis arrivée un peu tard, j'espère que vous n'avez pas posé la question. Vous avez, là il va y avoir les élections bientôt, hein. Par rapport à la liste à Saillant, qu'est-ce que c'est que votre positionnement? Vous allez repartir sur la même énergie, j'imagine, de reconstruire un programme avec les habitants. Et en fait, ce groupe d'élus, il ne va pas forcément être élu.
Non.
Puisqu'il n'y a pas de tête de liste, il n'y a pas de...
Alors, dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'il y en a 4, il y en avait 3, puis du coup, on a eu une réunion, en fait, il y a 2 jours, première réunion de la nouvelle liste, enfin, en tout cas, de cette mouvance-là qui essaie de relancer une liste pour les élections municipales à venir. On a déjà une liste d'opposition qui s'est présentée, qui s'est officialisée, et qui nous attaque sur le fait qu'on ne fait pas de la démocratie. C'est assez rigolo, hein. Parce qu'il faut suivre, parce que du coup, quand vous voyez les pimpins qui nous disent ça, en fait, c'est des gens qui ont jamais prononcé plus de 10 fois dans leur vie le mot démocratie. En fait, du coup, c'est un truc nouveau pour eux. Et en fait, ils nous attaquent sur le fait qu'on fait pas assez de démocratie. Et l'argument principal, c'est que sur le PLU, c'est 12 personnes qui ont décidé, c'est pas les 1200 habitants. voyez l'argument démagogique au possible. Quoi, généralement. Encore une fois, je vous dis, hein, sur le PLU, il y a eu 24 concertations avec l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a plus d'un tiers du village qui est passé à un moment donné dans des ateliers et qui a pu donner un avis sur le PLU. Voyez. Donc ce travail-là a vraiment été fait. Sauf qu'à la fin, on a assumé le fait que c'était 12 personnes des 4 élus qui prenaient les décisions. Voilà. Et ça, ça nous ramène toutes les critiques. Voilà. Mais par des gens qui ne croient pas une seule seconde à ça. Enfin bon, en tout cas, voilà, ce monsieur se présente avec une liste. Je pense qu'il va avoir un mal fou à la composer, d'ailleurs. Et sur les 12 élus de la majorité, du coup, il y en a 3 qui se représentaient. Et du coup, il y en a eu un quatrième qui a... On a refait le coup des cases, en fait. Hein, du coup, hein, les gens ont causé les cases. Et donc, il y en a 4 sur les 12 qui retournent. Alors, il y a des gens qui disent, oh, pas beaucoup, 4. Mais non, c'est énorme, 4. Quand vous êtes tapé 6 ans de mandature comme ça, c'est fou de se dire qu'il y en a un qui va y retourner. Quoi. Je veux dire, c'est... Ils ont tous divorcé. Hein. Ils ont tous... Enfin, c'était compliqué leur vie hein, de tous ces gens-là pendant 6 ans. Quoi. Ça a été un vrai engagement. Et c'était trop d'engagement. Hein, parce que je pense qu'il est possible de vivre des aventures comme celle-ci sans que ça demande un tel engagement. Je pense qu'ils n'ont pas réussi suffisamment à se faire... Pas faire confiance, mais à se déléguer le travail et à se répartir le travail. Voilà. Je pense qu'il était possible de faire différemment. En tout cas, il y en a 4 qui y retournent et ils sont en train de refaire des réunions publiques du coup pour essayer de refaire un groupe de 15. Et autant la dernière fois, on est parti sans programme, mais c'était un exercice. Vous avez compris que c'était pour la symbolique de la chose qu'on a fait ça. C'est pas sain de partir avec zéro programme. Et en fait, on s'en fout du programme. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent... Je crois que je vais aller à Digne-les-Bains dans pas très longtemps. Et en fait, la maire sortante de Digne-les-Bains dit « Moi, je veux bien faire un projet, un programme participatif avec les habitants. Par contre, je veux qu'on me foute la paix pendant 6 ans. » Et ça tient la route. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à ça. Et je me suis dit « Mais non, en fait, il faut jamais partir avec un programme. Parce qu'un programme, ça vous enferme. C'est des promesses. Vous faites des promesses. Et après, vous avez 6 ans, quoi qu'il advienne. » Parce que je ne sais pas si vous avez vu, le monde change hein, assez rapidement. Hein. Quoi qu'il advienne, il va falloir que vous respectiez le programme que vous avez établi 6 ans avant. C'est débile de faire ça. C'est pas du tout agile, c'est pas du tout, c'est pas intelligent de faire ça. Donc je pense qu'il faut pas faire de programme. Je pense qu'il faut se donner des lignes. Je pense qu'il faut se donner des orientations. Je pense qu'il faut se donner des lignes rouges. On passera. Donc je pense qu'il faut se fixer des lignes rouges et se fixer des étoiles et dire aux gens, on va travailler dans la pluralité autour de ces questions-là pendant la mandature. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et je ne sais pas si c'est ça qu'ils vont faire. Je crois qu'en tout cas, ils se sont donné des lignes autour de l'écologie, parce que je pense certains ont été rattrapés par l'urgence écologique. Et je ne sais pas exactement comment ils vont s'y prendre. Alors je dis, moi aujourd'hui, je ne suis plus tellement dans la démarche, et j'y suis plus depuis un petit moment, en fait. Je vous parle un petit peu de moi. Moi, j'ai fait des ulcères, en fait, après les élections. J'étais malade. Parce que j'ai porté assez fort avec tous ces gens-là, j'ai porté une utopie folle. Et cette utopie, elle s'est réalisée en fait. C'est un truc de fou. Et en fait, j'ai appris, moi en tout cas, à laisser grandir. J'étais l'un des papas de ce bébé. Et il a fallu que j'apprenne à le laisser grandir sans moi en fait, ce bébé. Et ce bébé a pris des directions qui m'enchantent pas en fait. Il y a des endroits où je suis pas très content de la manière dont il a grandi. Mais il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça, en fait. Parce que moi, je suis pas élu. Je fais partie d'une instance qui s'appelle l'Observatoire de la Participation, le Conseil des Sages. Je suis pas élu, moi. Donc, j'ai juste participé à la création de ce truc-là. Et le bébé, ben, je l'ai vu grandir, en fait. Et j'ai appris, en fait, à me dire, bah ouais, il m'appartient pas, ce bébé, en fait. Et c'est chouette qu'il ait grandi comme ça. Même si je suis pas d'accord avec tout. Putain, qu'est-ce que je suis fier de ce bébé-là. Et qu'est-ce que je suis fier d'y avoir contribué, en fait, à la naissance de ce bébé-là. Et donc, quelque part, ce nouveau bébé-là, qui va passer dans une autre phase, qui va passer à la phase adulte si cette liste remporte les élections, je pense que je vais continuer à le regarder grandir comme ça. Et je suis plus très appelé, en fait. Moi, je suis prosélyte, vous voyez, je suis l'activiste. Je suis le mec qui tranche. Dans un village de 1200 habitants comme Assaillant, ça fait... On tâte de gourou, moi, vous voyez ce que je veux dire. Et pour un mec qui défend comme moi le développement du pouvoir d'agir et de dire il faut pas dire aux gens comment il faut penser mais machin, ça fait chier de se faire taper de gourou quoi. Voilà. Et ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc du coup ouais, j'ai porté mais en tout cas assez haut et fort le fait de pas faire de programme à l'époque, le fait de se présenter sans candidat et le fait de faire une expérimentation radicale de la démocratie. J'ai porté ça très fort. Mais ça Eh ben, les coups de, des fois, il y a des retours de bâton de ça, quoi. Donc aujourd'hui, cette liste grandit. Et jusqu'à maintenant, je disais que ça allait être compliqué parce qu'il y a énormément de tensions dans le village. Hein. C'est une expérience comme ça a fait... déjà que c'est toujours tendu à Saillant à la veille des élections. Vous savez que jamais un maire n'a eu deux mandats consécutifs à Saillant ? Vous imaginez le... Alors ça ne fait pas de Saillant un village de militants, ça fait de Saillant un village de chieurs, en fait. Vous voyez, c'est juste des... C'est juste des gens qui sont sans arrêt dans, dans une forme de revendication et dans une forme de rejet de ce qui est en place. Jamais un maire, ils sont quasiment tous représentés, jamais un maire... C'est pour ça qu'on a gagné en 2014, essentiellement, d'ailleurs. Hein. On a gagné parce qu'on avait ce projet qui était un peu atypique, mais on a surtout gagné parce que c'était le maire sortant à qui il fallait botter les fesses, quoi, comme d'habitude. Vous voyez ? Et on est en train de vivre un peu ça, nous aussi. Il faut nous botter les fesses, quoi. Vous voyez ? Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très fort à Saillant. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de vivre à Saillant lorsqu'on porte un peu cette étiquette de cette liste. Mais je suis un peu... là, maintenant, je suis plus optimiste parce que je viens de vivre une réunion il y a deux jours avec eux, qu'on était 70 dans la salle, et qu'il y a des gens nouveaux qui rentrent sur la liste, et qu'il y a à nouveau une dynamique, et que j'ai l'impression que ça peut passer. Ça sera peut-être pas aussi radical sur la question de la démocratie. Ça sera sans doute plus programmatique. Mais je crois que ce truc de se dire qu'on demande systématiquement la vie aux habitants et on construit les projets avec les habitants, je crois que ça, c'est ancré. Et je dirais même plus que ça, je pense que même si c'est pas cette liste qui gagne, je pense que le futur maire, quand il prendra des décisions de manière autocrate, de manière verticale, je pense qu'il se fera botter les fesses par nos opposants actuels. Je crois que ce truc-là, c'est rentré dans les têtes de tout le monde. C'est terrible de dire ça. Hein. Aujourd'hui, nos opposants, je pense que c'est rentré dans leur ADN qu'on ne dirige plus une commune d'une manière verticale. Il y a des listes participatives qui se montent partout autour de Saillant. À Cray, Mariton lance une liste participative. Mais vous savez, il emploie ces mots-là. Hein. Enfin, c'est pour ça que quand je vous dis que ça va être dans la tête de tout le monde. Mais il y a une vraie autre liste participative qui se monte à Cray. Il y a des listes participatives qui se montent partout autour de Saillant. Et tout le monde dit, on ne va pas faire comme à Saillant. D'ailleurs, ils ne nous invitent pas dans leur réunion. Je vous jure. Ils disent on veut surtout pas faire comme à Saillant parce qu'ils sentent l'animosité qu'il y a autour de ça, que c'est pas un modèle si parfait que ça, que ça marche pas si bien que ça. C'est ça qu'on dit de Saillant en fait. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde lance des dynamiques participatives, tout en rejetant l'expérience de Saillant. C'est pas magnifique ça ? Alors c'est un peu dur pour les élus actuels de sentir cette animosité là, et à la fois quand vous prenez un peu de hauteur là-dessus, vous dites putain le job quoi. 5 ans et demi, et c'est inscrit partout autour de Saillant qu'on ne peut plus faire de démocratie locale sans la participation.
En fait, monsieur vient de répondre exactement à la question que j'allais poser, c'est-à-dire comment ça se passait autour, parce que je sais que à Crest, il y a un problème, il y a un projet d'aquapark qui est calamiteux, et je me disais que du coup, il pouvait avoir la même dynamique qui se créait à partir d'une focalisation sur un problème.
Non, le projet est mort de lui-même, en fait. C'est fou. Le projet était installé sur une zone inondable, en fait. Donc, effectivement,
c'est pas possible. Alors, moi, je voulais juste poser une question sur est-ce, par rapport à une situation où pendant 6 ans, les gens se retrouvent, décident, échangent, débattent, est-ce que parce que souvent, on dit oui, au début, les gens ils disent, ouais, mon problème, c'est la crotte de chien qui a devant la porte de chez moi, et puis après, c'est l'intérêt privé. Et ensuite, quand on continue à travailler ensemble, il me semble que ce serait vers ça que ça devrait aller, c'est l'intérêt collectif, on va le définir. Mais là, on travaille du collectif, quoi. Oh. Et donc, est-ce que là, dans la tête des gens, ça a changé ? Ça a l'air de dire que non, finalement.
Moi, je pense que ça change à partir du moment où vous mettez des processus qui permettent de changer ça, mais il faut les tenir tout le temps, ces processus-là. On dit souvent, les gens sont chiants parce que quand ils viennent dans une réunion, ils viennent portés par leur intérêt privé. Ben moi je trouve ça sain, c'est normal de venir dans une réunion parce que le sujet vous intéresse et vous venez parce que c'est l'intérêt, votre intérêt privé qui l'emporte, et donc c'est ça que vous mettez sur le tapis. Moi les gens qui me font flipper, c'est les gens qui viennent porteurs de l'intérêt général tout le temps. Vous voyez, moi ces gens-là me font flipper en fait, parce que du coup je dis mais tu parles de qui, tu parles au nom de qui quoi. Déjà parle au nom de toi, gère ta schizophrénie déjà intérieure, et puis déjà fais le point entre toi et toi. Tu vas voir, c'est déjà pas simple, tu vas pas être porte-parole de l'intérêt général. Enfin, c'est quoi ce bordel? Enfin, moi, c'est ces gens-là qui me font super peur, en fait. Il faut faire attention hein, aux porteurs de l'intérêt collectif. Hein. C'est l'intérêt collectif de qui, quoi? Vous voyez, enfin, donc moi, je préfère, effectivement, animer réellement des processus où chacun va venir avec ce qu'il défend. Et ensuite, de ça, on va entendre ça, et on va arbitrer, on va prendre une décision. Et ça, ça sera de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pas forcément la suppression des caméras de surveillance, c'est pas forcément l'ouverture des frontières, c'est pas forcément ça, l'intérêt général. Oui, ouverture des frontières, je soutiens l'ouverture des frontières. Oui, bien sûr que je trouve que les caméras de surveillance, c'est une absurdité, parce que c'est pas comme ça qu'on règle ça. Mais il faut ouvrir tous ces débats-là, quoi. Il faut écouter les gens, dans leur sentiment d'insécurité, etc. Il faut que les gens puissent le poser, tout ça, quoi. Il faut répondre à tout ça. Et demain, nous allons visiter un truc qui s'appelle la décision au consentement. Et vous allez voir qu'avec le consentement, on peut réussir à se mettre d'accord avec des gens qui ne pensent pas la même chose sur un sujet. Mais ça nécessite de travailler sur soi, en fait. Et le travail sur soi, il va prendre plusieurs générations. Et ça ne répond absolument pas à toutes les urgences qui nous tombent sur la gueule en ce moment. Ce que je vous propose, moi, en tout cas, le chemin que je propose dans le travail que je fais avec les listes participatives, ne répond aucunement à l'urgence. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir plusieurs générations, effectivement, pour réussir petit à petit à dépasser ses intérêts individuels, à dépasser ses intérêts privés, pour aller vers de... et accepter de discuter avec l'inconnu, de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme vous, d'entendre ce qu'ils ont à dire, de comprendre ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils disent, pour ensuite évoluer. Ça va prendre des générations et des générations de faire ça. Assaillant, le sport national reste râlé au bar des sports. Le sport national n'est pas d'aller se frotter avec des gens qui ne pensent pas comme vous, discuter avec eux et prendre du plaisir à le faire. Il va falloir plusieurs générations pour le faire. Il a fallu 6 ans, par contre, pour que les gens comprennent que les décisions radicales faites par un seul homme, ça n'est plus possible. Bon, on a déjà fait ça. Mais oui, ça va prendre du temps. Et je ne sais pas si on a du temps.
Est-ce que vous avez une idée des politiques des élus? Est-ce que ça n'a aucune importance? Le maire qui est grand électeur, etc. Est-ce que vous êtes et de droite et de gauche? On est tous pareils hein? Où il y a quand même des débats politiques qui structurent votre réflexion.
Je crois que petit à petit, ce qui va structurer notre réflexion, c'est effectivement l'écologie. Alors au début, quand j'accompagnais des listes qui me présentaient des programmes écologiques, je leur disais, non, vous ne faites pas une liste participative, vous êtes en train de faire une liste écolo hors parti. Et j'avais tendance un petit peu à leur tirer les oreilles en disant, on ne parle pas de la même chose. Aujourd'hui, je pense que, moi en tout cas, je suis touché par cette urgence-là. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas, je suis touché par cette urgence-là. Et pour moi, j'ai tendance à considérer que l'écologie doit être au centre de tout. Voilà. Et je pense qu'on peut bâtir un programme qui dit, par exemple, qu'aucun des projets qui seront menés sur la commune n'ira à l'encontre des valeurs écologiques de base, machin, sans que ça soit une liste verte. Après, pour ce qui est de droite-gauche... Je pense que dans notre liste, on arrive à avoir... on est quand même plutôt de gauche, hein, je pense, sur les 12. Mais je crois qu'on a une petite diversité quand même sur notre liste, qui simplifie pas forcément les débats. Mais je ne sais pas si c'est droite-gauche, on est plutôt sur du... je pense que vous vivez ça aussi ici, la grande rivalité qu'il y a sur le territoire ruraux, c'est entre les néos... Et les gens qui sont du village, en fait. Et des gens du village, du coup, qui ont du mal à supporter leur village évoluer, même quand ça va dans le bon sens, même quand ça va vers l'ouverture de classe, comme c'est le cas à Saillant, même quand ça va vers une vitalité du village, comme c'est le cas à Saillant. Mais du coup, il y a quand même un truc de l'ordre de la nostalgie, j'en sais rien, d'une espèce de retour au passé, qui fait, ou de la peur. Et qui fait qu'à un moment donné, il y a un vrai clivage qui se base là-dessus. Donc moi, je vois beaucoup dans nos listes participatives, en fait, un vrai clivage là-dessus. Si vous vous présentez qu'avec des listes de néo, vous n'avez absolument aucune chance de l'emporter. Et si vous l'emportez, vous ne pourrez pas considérer être représentatif de quoi que ce soit. Donc je suis même pas sûr qu'on parle chez nous de droite ou de gauche. On va plutôt parler de conservateurs et de progressistes, on va dire. On est plutôt dans ce genre de choses-là. Alors, est-ce que le progrès, c'est la gauche je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Puis, de toute façon, ces questions ne m'intéressent plus, moi, personnellement. Le rassemblement des forces de gauche, moi, j'y crois plus une seule seconde. Enfin, j'en ai marre. Enfin, voilà, ça ne me parle plus du tout. Depuis Place Publique, quel succès. Je ne sais pas si vous voudrez qu'on parle de Place Publique à un moment donné. Voilà. Donc, non, je pense qu'on a vraiment ce truc, en tout cas, dans la mandature. On a plutôt attiré des gens plutôt de notre couleur politique, on va dire, plutôt à gauche, on va dire, dans nos réunions, faut pas rêver. Hein. Cela dit, lorsque vous faites une réunion sur le PLU avec comme titre « La place de l'habitat mobile dans ce village », je peux vous assurer que vous voyez débarquer, d'un seul coup, des gens que vous n'avez jamais vus dans vos réunions avant. Là, vous avez tous les propriétaires terriens, du coup, tous les propriétaires du village qui débarquent en disant « Les caravanes et les yourtes, là, du coup, comment ça se passe? Du coup, vous voulez les mettre où ?» Vous voyez ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction du sujet et de l'intérêt porté au sujet, je pense qu'on a réussi à faire venir des gens très différents autour de la table. Et voilà, sur la question de l'eau, par exemple, je pense qu'on est en capacité de faire venir des gens très différents autour de la table, parce qu'on a encore la gestion municipale de l'eau. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut vraiment faire venir des gens très différents. Et je pense qu'on a, je pense qu'il n'y a plus tellement d'intérêt à cliver entre la gauche et la droite, gestion des affaires communales.
Et il avait parlé aussi des grands électeurs. Le maire intervient. Et est-ce qu'il a renvoyé ça vers le conseil?
Ouais, alors du coup, élection présidentielle arrive, on a des demandes de parrainage. Donc le Vincent se pose la question, mince, à qui je donne voilà, donc très rapidement, Vincent explose de rire en disant, bah non, c'est pas moi qui vais décider, c'est pas le projet. Du coup, donc après, il se pose la question du conseil municipal, puis pareil, le conseil municipal qui dit bah non, c'est pas nous qui allons décider. Donc on va jusqu'à mettre une urne sur la place du marché. Deux ou trois dimanches d'affilée, je sais plus. Et on présente du coup les 12 personnes qui nous ont demandé un parrainage en fait, et on fait voter les gens. Et donc Philippe Poutou l'a emporté de 33 voix devant Charlotte Marchandise de 32 voix, sachant que notre candidate c'était plutôt Charlotte Marchandise pour ceux qui ont un peu suivi ce qu'elle a fait. On est aussi un peu dans un process un peu démocratique, mais c'est pas nous qui avons choisi. Et c'est donc Philippe Poutou qui d'une voix l'a emporté. Donc Philippe Poutou a eu la voix de Monsieur Vincent Bayard.
Je pense qu'il parlait plutôt pour les sénatoriales.
Ouais.
Oui.
Tout ça pour dire que en fait, c'est totalement illégal de faire ça. Mais jamais nous n'avons écrit nulle part que le parrainage irait à la personne qui sortirait des urnes. On a juste dit que c'est le maire qui choisira à qui donnera. Le maire a choisi, seul, en son âme et conscience, Philippe Poutou. Voilà. Vous voyez, rien ne vous empêche de consulter la population pour avoir un avis. Il faut juste qu'à la fin, sur un vote du conseil municipal, notre constitution dit que ça doit être du vote majoritaire. Les décisions doivent être prises au vote majoritaire au sein du conseil municipal. Prenez vos décisions au vote majoritaire au conseil, c'est ce qu'on fait. Sauf que bizarrement, ça va toujours dans le sens de ce qui sort des urnes et de la consultation. C'est un hasard. Ma pauvre dame, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Voilà. Mais vous n'avez pas le droit de l'écrire, ça. Notre constitution interdit ce type de processus.
Allez-y, allez-y.
Une question. Les réunions, il y en a eu beaucoup, elles se faisaient le soir. Comment c'était organisé un peu? Parce que, par exemple, pour nos élus, il y a beaucoup de réunions de commission où ils ne peuvent pas y être, ils bossent. Ils ont leur emploi. Et elles sont à 16h l'après-midi. Mmh. Ou, je ne sais pas, ouais. 10. Voilà.
Je crois qu'on a vraiment tout essayé sur les trois premières années. On a essayé des réunions le matin, le soir, le week-end, en semaine. On a organisé des gardes d'enfants. On a vraiment tout essayé pour faciliter les modalités de réunion. Et je sais pas s'il y a une modalité qui marche plus qu'une autre, mais l'invitation c'est vraiment d'essayer en fait et de voir comment ça peut marcher. Tout ça pose la question du temps disponible. Le vrai problème qu'on a nous à Saillant, c'est le problème du temps disponible. On va dire que les 25-45, on les voit très très peu. Enfants en bas âge, vie active, etc. Et puis envie de faire la bringue aussi. Font que y a des gens qu'on a très peu vus parce que le temps n'était pas là. Donc en fait, ce système-là, en fait, il est très adapté à un nouveau monde, mais on n'y est pas encore dans le nouveau monde. Ce temps-là sera très adapté à un nouveau monde qui dirait, par exemple, que il est aussi important de consacrer du temps à sa vie professionnelle, à sa vie privée, à la vie de la cité. Le jour où on sera dans ce monde-là, notre modèle marchera parfaitement. Le jour où dans la tête des gens, consacrer une journée par semaine à la vie de la cité, la vie de son village, de son quartier, alors, il ne faudrait pas que ça devienne obligatoire, parce que là, on tombe dans une autre forme de régime, vous voyez. Mais le jour où ça deviendra une évidence pour chacun de consacrer au moins une journée par semaine à la vie de la cité, notre modèle marchera parfaitement. Alors, est-ce qu'il faut attendre? J'ai pas l'impression que ça soit tout à fait dans le projet de notre gouvernement actuel de travailler moins. Hein, je n'ai pas cru dire ça derrière moi. Est-ce qu'il faut attendre, du coup, ce changement de modèle pour tester des choses? Je pense pas. Donc, voilà. Saillant est un peu une espèce de cobaye, du coup. Donc, vous voyez, c'est un système qui marche moyennement, finalement. Parce que la société n'est pas adaptée. Mais je pense qu'il faut quand même tenter des choses, quoi. Donc, voilà. Mais on a eu du grand succès sur beaucoup de réunions, et puis sur d'autres réunions, un peu moins. Mais Globalement, la dernière réunion qu'on a fait sur le PLU, je vous assure, sur l'habitat mobile, je vous assure, on a eu 150 personnes dans la salle. On était contents. Hein. Et c'était chaud. Hein. Wow.
Excusez-moi, je reprends encore. Sur la question des rapports avec les services techniques, et vous évoquiez la nécessité de faire appel à des personnes qui connaissent techniquement certains aspects de la gestion d'une... de la gestion de placement, comment, je ne sais pas des mots on peut mettre, mais de la commune. Or, quand on est technicien de commune, on n'est pas affranchi d'une idéologie, si je puis me permettre. Enfin, je veux dire, derrière, il y a une... Quand on parle d'organisation du territoire, par exemple, etc., ça veut dire des choses. Ça veut dire quand même des choses, et que techniquement, on est formé à ça. Or, j'imagine que par rapport au... Il y a des services techniques à faire. Bon, 1300, il ne doit pas avoir non plus des choses énormes. Mais comment on peut imaginer que le fonctionnement de ces services techniques avec ce type de lieu de fonctionnement citoyen ?
C'est une vraie question. Ça, je crois que c'est une vraie, vraie question. Déjà, je pense qu'il va falloir inventer un nouveau boulot, c'est le boulot d'animateur. Et ça, je pense qu'il faut l'inventer pour toutes les organisations. Même dans votre vie familiale, avec votre conjoint, votre conjointe, il faudrait que vous ayez un animateur de temps en temps, vous voyez, pour, voire même entre vous et vous-même, de temps en temps. Vous voyez, c'est... Donc je pense que vraiment, l'animateur dans toutes les orgas, vraiment, cette personne, du coup, qui va être à l'écoute, avec une écoute la plus neutre possible, en fait. C'est jamais neutre, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, d'avoir ce... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'animateur, en fait, ne donne jamais son point de vue. Enfin, bon, en tout cas, c'est la posture que je propose de l'animateur, c'est qu'il ne donne jamais son point de vue sur le sujet. Jamais, 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 jamais. Par contre, il est garant du process. Et c'est lui qui fixe les règles du process. Avec l'adhésion du groupe. Mais il ne donne jamais son point de vue sur le sujet. Donc, je pense qu'il manque ce type de fonction dans nos réunions et dans nos municipalités pour éviter que ce soit le maire, par exemple, qui conduise les débats dans une réunion où il faut prendre une décision à la fin. Il y a aussi, vous voyez, dans une mairie, dans une aventure comme celle-ci, vous imaginez qu'on devrait avoir quelqu'un à l'accueil, par exemple, quelqu'un d'hyper ouvert à l'accueil. Vous voyez, et quelqu'un qui est capable de dire, en écoutant deux habitants parler d'urbanisme, en disant « Ouais, Georges, au fait, tu ne sais pas, mais dans une semaine, il y a une commission urbaniste qui se réunit, ça serait vachement bien que tu y sois. » Vous voyez, quelqu'un qui soit un peu dynamique comme ça. Non, en fait, la personne qu'on avait à l'accueil, elle était gênée par la lumière du jour et elle voulait, elle baissait les volets la journée. Je ne sais pas si vous imaginez, du coup, la mairie dynamique. Et en fait, quand vous passez devant la mairie, vous avez l'impression que c'est tout le temps fermé, en fait. Mais non, c'est pas fermé, c'est juste que la secrétaire d'accueil, du coup, est gênée par la lumière. Et elle n'est pas seulement gênée par la lumière, elle était gênée par les gens, en fait, de manière globale. Quoi. Et c'est pas quelqu'un où son boulot, c'était plutôt de faire de l'administratif, vous voyez ce que je veux dire ? Son boulot, c'était pas tellement d'être avec les gens. Eh ben, il faut faire avec, quoi. Alors, du coup, entre-temps, elle est partie, il y a eu, je crois qu'il y a eu des arrêts maladie, il y a eu pas mal de choses. Mais... Et là, vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, il va falloir faire avec ces gens-là, en fait, quoi. Il va falloir peut-être faire tourner les postes, etc. Mais voilà. Donc, un autre exemple, il y a un compost collectif à Saillant et on avait demandé à l'agent de continuer à un moment donné de lui dire bon, bah, si une fois par semaine tu peux mettre un coup de fourche dans le compost, ça serait chouette. Et le mec vous sort sa fiche de poste en disant c'est pas marqué. Okay. Voilà. Et avec ce truc de se dire aussi toi, mon coco, dans 6 ans, t'es plus là, quoi. Donc, m'emmerde pas. Moi, ça fait déjà 20 ans que je suis là et je suis là encore pour les 10 ans qui viennent. Donc tu vas pas me la faire à moi, quoi. Voilà. Donc il y a un vrai truc du coup de voir comment vous embarquez le personnel municipal dans une aventure comme celle-là. Il faut des gens qui pensent la participation, qui pensent ces processus dont je viens de vous parler là, les commissions, les gaps, comment ça fait des allers-retours avec l'exécutif, etc. Il faut inventer ces gens qui font de l'ingénierie d'animation, quoi. Voilà. Il faut pas demander ça aux gens qui ont déjà cette charge de travail de faire fonctionner une mairie parce qu'ils ont déjà suffisamment de boulot comme ça. Donc voilà, il y a des choses à faire cohabiter et à faire évoluer gentiment et petitement parce que ces gens-là ne vous ont rien demandé. Et si vous les prenez un peu de haut en disant machin, ils sont pas forcément sur la même idéologie que vous. Donc il va falloir y aller tranquillement et chercher l'adhésion de ces gens-là. Et c'est pas toujours évident. Et une dernière chose, si les politiques restent à leur place et les techniciens restent à leur place, ça simplifierait aussi beaucoup les choses. Voilà. Le seul problème aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des politiques qui font de la gestion et des techniciens qui font du politique. Et ça, c'est le bordel. Voilà. Et donc, ça serait bien que chacun reste à sa place aussi, un minimum. Et de considérer que dans la gestion, quand vous êtes élu, vous n'êtes pas là pour gérer un village. Vous êtes là pour faire de la politique. Et faire de la politique, c'est transformer le monde. de votre petit village de 1200 habitants, vous allez transformer le monde. Il faut avoir cette conviction-là, surtout dans les temps qui nous arrivent. L'échelle communale est l'échelle la plus facile. C'est l'échelle de la puissance, c'est le retour de la puissance. Il est possible de faire des choses à l'échelon communal, à l'échelon régional, départemental, national, international. Moi, plus je monte et plus j'ai le vertige, en fait, quoi. Je ne sais pas faire quoi d'autre à part les manifester. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, quoi? À l'échelon local, on peut faire des choses, quoi. Donc l'invitation, c'est de demander aux hommes politiques, aux élus locaux, de refaire du politique, de faire des interdictions de pesticides, contre les pesticides, de faire du revenu minimum d'existence, même si tout ça est interdit par la loi, de reprendre en main le devenir de sa communauté, de sa petite communauté, mais aussi, vous savez, le truc, la pensée globale et agir local, là. Vous vous rappelez de ce truc-là? Voilà. Je pense que les grandes choses vont se faire de la base, vont se faire des communes, mais pour ça, il va falloir que les politiques et les élus reprennent en main cette gestion politique des affaires et non pas la gestion technique de leur village. Voilà.
Merci. Moi, j'avais une question en continuité à la place de l'animateur. Que pensez-vous des formations de designers en innovation sociale et en innovation publique qui sont en train de se mettre en place en France de plus en plus? Et quelle place ils pourraient avoir dans la vie locale en tant que professionnels de l'animation?
On est en France les champions du monde de la participation, du design, des politiques locales. On a inventé toutes les professions possibles et imaginables. Il y a un nombre d'études, on a tout, les conseils de quartier, les conseils citoyens, ça vous parle ça du coup? Toutes ces instances de participation et de fausse participation. Juste, j'ai pas de réponse sur ce point-là en particulier, mais juste dire que si tout ça n'est pas tenu par une raison d'être et une volonté politique forte, ça ne sert à rien tout ça en fait, quoi, du coup. Tous les outils dont je vous parle, dont on parlera pendant ces deux jours, peuvent être très bien utilisés pour faire du management actif, vous voyez. La sociocratie est utilisée parfois dans certaines boîtes à de mauvais escient. Vous voyez, c'est pour juste permettre à chaque salarié de gagner en productivité. Ça peut servir aussi à ça. Ça peut être des outils de manipulation de masse, tous ces outils-là. Il faut donc que la raison d'être, en fait, le pourquoi de tout ça, le pourquoi du design, pourquoi designer les politiques publiques, il faut être très clair sur pourquoi on fait ça. Et je crois qu'on n'est pas toujours très clair là-dessus. Et voilà. Et on fait souvent de la fausse participation en France, mais ça, je pense que je ne vais pas vous l'avez déjà vu, ça, je pense.
Vas-y.
Oui, moi, je voudrais revenir juste sur la notion d'animateur, parce qu'on sent que c'est quand même... c'est le cœur. Pour moi, c'est le cœur de la démocratie participative. C'est-à-dire que c'est lui qui va garantir, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous le dites par rapport aux réunions, il est garant du process. Et alors, la question que je me pose, par rapport au travail qu'on fera demain, par rapport à nos réflexions qu'on a actuellement sur, par rapport à Rodez, c'est est-ce que l'animateur doit se... les animateurs, parce que c'est vrai que suivant l'échelle des communes, il faut sans doute en savoir beaucoup plus par rapport à une ville, par exemple, comme Rodez. Est-ce qu'il vaut mieux pas que ces animateurs soient extérieurs à l'organigramme de la commune? C'est-à-dire que, est-ce que politiquement... il n'est pas mieux pour justement veiller à une neutralité, une objectivité et à garantir ces process, qu'il y ait une contractualisation avec peut-être des animateurs professionnels qui sont sur d'autres structures, des structures externes à la commune, externes à la collectivité, mais qui ont une mission, un cahier des charges qu'ils doivent remplir, que la commune, que les élus réfléchissent pour qu'ils soient déclinés ensuite, alors dans les quartiers, dans les réunions, après c'est tout ça, c'est à définir.
Oui, je partage ça, ouais, effectivement, qu'on ait des animateurs qui soient, et c'est valable pour toutes les organes, moi je travaille avec des associations, des entreprises, des collectivités locales, tous ces processus du coup sont valables. Je peux travailler dans la même semaine pour une association, une collectivité locale et une entreprise, et je vais utiliser exactement les mêmes processus, les mêmes outils. On va faire la même chose, en fait, quoi. Et j'ai cette vision, effectivement, d'avoir des animateurs qui puissent être, du coup, salariés de 3 ou 4 types d'organisations différentes. Et leur boulot, du coup, sera effectivement de faire ça. Ou sinon, l'autre solution, c'est de dégager du temps de travail, c'est-à-dire que le salarié soit à mi-temps sur une dimension d'animateur. Du coup, on va lui demander cette neutralité-là. Et un autre mi-temps sur une autre mission. Mais il faut absolument qu'il ait du temps dégagé à ça, qu'on le reconnaisse pour ça. et qu'il soit soutenu dans cette fonction-là. Quoi. Mais il faut qu'il y ait du temps dégagé pour ça, vraiment. Quoi. Vous savez, souvent, dans nos réunions, on fait l'animateur à tour de rôle. Alors, je ne suis pas très objectif là-dessus, c'est mon boulot d'être animateur, c'est mon boulot de former des animateurs, mais je crois vraiment qu'il y a une forme d'expertise à acquérir dans ce boulot-là, et qu'il ne faut pas que ça soit toujours les mêmes, c'est bien d'être deux ou trois, mais c'est bien que ça soit bien ciblé, quoi, et que cette personne-là, son boulot, ça soit essentiellement de faire ça. Quoi.
C'est sur le rôle de l'animateur. J'ai l'impression que l'animateur dont vous nous parlez, c'est une espèce de saint ou de héros qui est capable de rester complètement neutre dans toutes les situations en faisant appel effectivement à ses connaissances de la gestion du groupe. Mais je crains que, à l'usage, surtout si c'est toujours le même animateur qui vient animer les mêmes organismes, je crains qu'à la longue, il y ait une espèce d'adaptation au milieu et au système qui fasse qu'il n'y ait plus de neutralité, notamment de cette personne.
C'est pour ça qu'en sociocratie, on parle de mandat court. En fait, ça, c'est des rôles structurels sur lesquels, qui sont limités dans le temps. Sur un poste d'animateur, par exemple, on va aller sur des mandats de 6 mois ou d'un an dans une organisation. Et ensuite, on va, ça se fait souvent en élection sans candidat d'ailleurs, hein, et au bout de 6 mois ou un an, on va refaire une élection sans candidat. Ça peut être la même personne, mais c'est le groupe qui va en tout cas le décider, si c'est la même personne ou ça. Donc, l'un des critères, ça peut être celui-là. De se dire, écoute, là maintenant, t'as été trop proche du pouvoir et du commanditaire pour que tu puisses aujourd'hui avoir une position suffisamment neutre, et donc on va changer de truc. Donc voilà, effectivement, c'est très sain de se reposer la question. Putain, ça va pas assez vite, vous faites chier, machin, il y a une urgence, etc. Bah ouais, la méthode Saillant, elle ne répond pas à l'urgence. La méthode Saillant, elle fait se concerter les gens. Voilà. Et peut-être qu'ils vont trouver quelque chose d'hyper intelligent, ça sera un arrêté anti-pesticide, mais qui sera peut-être conditionné par certains points qui répondront, du coup, aux exigences actuelles des gens et des professionnels qui mettent des pesticides aujourd'hui dans les alentours de Saillant. C'est ça la méthode Saillant. Donc je dis pas que c'est la bonne méthode, je dis juste qu'aujourd'hui c'est ça la méthode Saillant. C'est de mettre autour de la table des gens qui ne pensent pas pareil et des gens qui peuvent défendre des arguments contraires. Et ça serait très facile aujourd'hui à Saillant de prendre la décision parce que dans le conseil municipal il y a une majorité qui décide, qui pourrait avoir prendre la décision de déposer un arrêt anti-pesticide. Mais on fait pas ça.
Puisqu'on était d'accord sur un arrêt vers cette heure-là, on prend la dernière question.
C'est juste par rapport à ce que tu viens de dire. Imagine que, parce que, enfin vous, avant vous avez dit c'est politique. Mais vous venez de dire, oui, mais imagine qu'il y a plus de gens qui veulent des pesticides parce que tu as consulté les agriculteurs. Et donc quoi? Et où est l'idéologie? Enfin voilà. Parce que c'est facile de dire la démocratie n'écoute tout le monde. Mais à un moment, on a des choix politiques quand même. Et si je veux une commune qui n'est pas de pesticides et que j'ai plus d'agriculteurs qui en veulent, et je fais quoi? Où est ma situation politique et je fais quoi?
Ça sera à chaque équipe de déterminer ça. Ça sera à chaque équipe de mettre dans sa charte ce qu'il a à mettre dans sa charte. Je pense que dans la future charte de Saillant, la question des pesticides se posera même plus. C'est-à-dire que la décision se prendra de manière radicale. Aujourd'hui, dans notre charte était beaucoup plus ouverte que celle-là. Donc aujourd'hui, dans notre ligne de conduite, c'est pas comme ça qu'on prend la décision. Mais peut-être que cette liste à Saillant décidera pour la prochaine mandature sur cette question-là de ne pas discuter avec les habitants en disant ça c'est pas de l'ordre de la participation, ça fait partie des fondamentaux et sur ces fondamentaux on ne discute pas. Peut-être que c'est ça. C'est à vous de trouver, c'est à chaque liste de trouver sa ligne. Il n'y a pas de réponse à ça. Trouvez votre place entre la démocratie et votre sens politique qui vous amène du coup à trancher de manière radicale sur un certain nombre de sujets. À vous de trouver la place dans tout ça. Merci à vous.
Prochain épisode des Jeudis en question sur CFM, la semaine prochaine, à la même heure.